Est-ce que je vous ai donné ma profession?
Ah, mais j'en veux surtout pas, madame.
Ah bon?
Eh non.
Et vous l'avez même pas vu ni lu.
Monique.
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons, dans tous les sens.
Depuis le studio 521, une émission réalisée par Flora Bernard, assistée de Lucie Spindler, avec à la technique aujourd'hui Juliette Delperroux et Basile Bocquer.
Au sommaire cette semaine, Monique Pinson-Charlot en campagne pour les législatives et au marché Brassens chez les Fadas du Vieux Bouquin.
Alors ça, je suis absolument désolée. Je suis caricaturale, je resterai caricaturale, je mourrai caricaturale. Pourquoi ? Parce que le monde est caricatural.
Quand vous voyez dans une pièce de Feydeau un bourgeois parisien hurler « Il faut réformer, réformer, réformer », ça vous rappelle quand même l'actualité présente.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Il faut réformer, réformer, réformer. Ah ça oui, c'est sûr que sur le marché du livre ancien et d'occasion, dans le 15e arrondissement de Paris, on en trouve des pépites qui nous rappellent farouchement l'actualité. L'avantage, aujourd'hui, c'est qu'on n'a même pas besoin de dire de quoi on parle. De Fillon à Macron, en passant par Bruxelles ou Gataz, c'est entendu, quand on dit réforme, on pense code du travail. Et ça trépigne dur, ça s'impatiente même déjà, parmi l'oligarchie, en attendant la grande réforme du président Macron. Alors pour faire tomber le masque, dévoiler ce qui se profile derrière son élection, Monique Pinson-Charlot, la célèbre sociologue de la bourgeoisie, est partie en campagne. Ils sont milliardaires, nous sommes en colère. Voilà le message de la candidate contre la finance de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine que Guy Vanctil a suivi entre tractage et meeting tout au long d'une journée. Et pour finir le week-end en beauté, on ira faire un petit tour du côté du marché Brassens, un marché du livre ancien et d'occasion, un lieu unique en Europe, mais dont l'avenir est incertain. Antoine Chao est donc allé balader son micro entre les étals des libraires dans ce petit carré de résistance où l'on ne fait pas que vendre, mais aussi où l'on transmet. Comme un bruit qui court, avec Monique Pinson-Charlot en campagne pour les législatives et au marché Brassens chez les Fadas du Vieux Bouquin, c'est jusqu'à 17h sur France Inter et c'est parti.
Antoine Chao, Charlotte Berry,
Guy Vanctil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
C'est le couple de sociologues le plus célèbre de France. Voilà des années que Monique et Michel Pinson-Charlot décrivent la violence des riches et enquêtent sur les ghettos du Gotha. Après des décennies d'études au CNRS, libérés de tout devoir de réserve à leur retraite, les deux chercheurs se sont fait éveilleurs de conscience, suivant les mobilisations et participant au débat sur les inégalités. Mais voilà qu'aujourd'hui, Monique se lance en politique, seule, même si Michel n'est jamais très très loin, répondant à l'appel d'un collectif d'associations. Dans les Hauts-de-Seine, la voilà propulsée candidate sur une liste de citoyens pour une gauche sociale et écologiste, entre Bourg-la-Reine et Châtenay-Malabry, pas loin donc des beaux quartiers de ses recherches. Une occasion pour nous d'aller retrouver cette femme qui s'engage lors de son premier jour de campagne, entre tractage et meeting, pour s'opposer, je cite, aux projets libéraux de casse sociale du nouveau président. La sociologie est un sport de combat, disait Bourdieu. Eh bien Monique, elle entre dans l'arène.
Et alors pour une fois, on est sûr que la candidate à la législature avec qui j'ai rendez-vous n'a pas été parachutée. Ah oui, sur la boîte, Pinson. Il n'y a pas écrit Charlot. Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, merci. C'est bien ce petit jardin avec toutes les pâquerettes.
Oui, c'est ce qui arrive aux paresseux qui passent pas la tondeuse.
Mais c'est beaucoup mieux de ne pas passer la tondeuse, moi je trouve, avec les pâquerettes.
Allez, on y va parce qu'il ne faut pas que je sois.
Ouais, allons-y, oui, oui. De toute façon, on y va à pied ou...
Ah, oui, à pied.
Très bien.
Bon, ben, à la prochaine. Hein.
Ouais, à tout à l'heure à la réunion. Non, non, faut pas oublier là.
Jamais tu viens pas. Je te préviens que ça se passera mal pour toi. Allez, je ferme la porte.
Hop.
Ah, vous enfermez votre mari, carrément.
Ah oui, il a les clés, il n'est pas.
Michel Pinson derrière les barreaux. À tout à l'heure.
Bah, à tout à l'heure, Michel.
Oui, vous êtes candidate, vous, mais pas tous les deux. Il n'est pas suppléant.
Ah ben non, c'est d'abord, on ne peut pas être un couple comme ça qui fait la même chose au même moment. Surtout qu'en pleine affaire Fillon, on ne pouvait quand même pas faire l'affaire Pinson.
Le Pinson Gate, après le Penelope Gate.
Voilà, absolument.
Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, bonsoir.
Bonsoir.
Avec votre mari Michel Pinson, vous travaillez depuis longtemps sur ce monde à part des riches que vous décrivez.
Plusieurs livres sur la bourgeoisie, sur l'oligarchie, dont le plus célèbre est La violence des riches.
Qu'est-ce que la violence ? Celle qui se traduit par la pauvreté des uns et la richesse des autres.
Pour en savoir plus, nous avons fait appel à des sociologues, spécialistes du Gotha.
Monique Pinson-Charlot, vous êtes maintenant une personnalité.
C'est vous qui le dites, hein, je ne le vis pas comme ça. Je suis contente du travail que j'ai fait avec Michel.
Combien d'années au CNRS ?
Alors, on est resté pas 40 ans, chercheurs.
Ouais.
Mais on a travaillé 30 ans sur la grande bourgeoisie, 30 ans d'affilée.
Et le présupposé de départ, c'était, on le rappelle, les chercheurs en sciences sociales travaillent tous sur les pauvres, mais personne ne s'intéresse aux riches.
On était très peu à travailler sur les dominants. Aujourd'hui, sûrement, ça a changé. La situation s'est tellement aggravée du point de vue de la violence de classe. Quant à l'ampleur des inégalités économiques, sociales, que du coup, il y a des jeunes chercheurs qui se sont lancés sur ce thème, où il y a du boulot.
30 ans d'études, vous le disiez, sur ce domaine, avec des publications de chercheurs.
Ouais.
Voilà 10 ans que vous êtes à la retraite, et depuis 10 ans, vous vous êtes levé de tout devoir de réserve, ou en tout cas de devoir de confidentialité de chercheuse, pour amener dans le débat public, d'une manière plus percutante, le résultat de vos recherches en sociologie.
Oui, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on a pris notre retraite en 2007, ça a coïncidé avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Et donc, plus de devoir de réserve. Et du coup, avec Michel, on s'est dit, dès le premier soir, dès le 6 mai 2007, quand il a fait sa fête aux Fouquettes, on s'est dit, alors là, maintenant, nous, on s'en fout. On a fait beaucoup de recherches sur les châteaux, sur la chasse à cour, sur les modes de vie des grands bourgeois. On est allé dans les cercles, on est allé dans les rallyes, on est allé dans les écoles de la bourgeoisie, dans les beaux quartiers, bien entendu. Tout ça, on a attrapé le fonctionnement de cette classe dominante un peu par tous les bouts, sauf deux bouts. C'était le champ politique et le champ économique. Alors là, ça a fait boum. On s'est vraiment rendu compte qu'on était face à une oligarchie, une plutocratie, face à une caste, face à une mafia. On ne sait pas quel mot dire, tellement ils sont solidaires, tellement ils sont peu nombreux et tellement ils s'accaparent toutes les richesses et tous les pouvoirs.
Et voilà comment maintenant vous êtes passé à l'étape d'après, après avoir fait lanceuse d'alerte un peu avec...
Oui, éveilleur de conscience, on se dit avec Michel toujours.
Tous les deux.
Oui, tous les deux ensemble, on se dit on est vraiment des éveilleurs de conscience. Parce qu'on a parcouru vraiment toute la France, on a fait des centaines de rencontres, tellement depuis 2010 qu'on a sorti le président des riches, on a sillonné la France. Et ça, c'était très important. Et puis un couple, dans ces rencontres, ça casse complètement l'aspect égocentrique, l'aspect narcissique de la bonne femme ou du type qui arrive tout seul.
Qui attend à ce qu'on l'écoute.
Voilà, le petit bonhomme est vert, on va en profiter. Et voilà, donc du coup, ça met de l'humanité.
Il s'agit d'une enquête à laquelle vous vous êtes livrés tous les deux dans les rouages de l'évasion fiscale et de ses enjeux politiques.
Ah là, ça se calme. Presque. Et alors, du coup, voilà, maintenant vous faites le grand saut. Après avoir été chercheuse, après avoir été éveilleuse de conscience, maintenant vous êtes candidate.
Oui, mais en réalité, c'est pas vraiment un grand saut. Je le vis comme quelque chose de cohérent qui devait arriver un jour. Parce que dans cette circonscription, il y avait une habitude, parce qu'il y a des personnalités qui donnent beaucoup de leur temps, qui sont très impliquées, qui sont venues vraiment me solliciter à plusieurs reprises, parce qu'ils travaillent avec beaucoup de responsables d'associations, et tous ensemble, ils ont dit non, nous, ce qu'on veut faire, c'est faire quelque chose qui parte de la base, qui rassemble des citoyens et des citoyennes qui ont envie de travailler ensemble, au-delà des clivages, et il nous faut une candidature qui nous rassemble. Et donc, chaque fois, il donnait des noms, donnait des noms. Et puis, ben, il me disait, c'est toujours ton nom qui revient. Voilà. Et du coup, après, ils m'ont dit, tu verras, il y a toute une équipe qui va travailler avec toi. Tu seras très entouré. Et c'est ce qui se passe. Ça, c'est formidable.
Ouais, c'est là, vous vous engagez vraiment. Vous baissez la garde de la chercheuse pour être vraiment pleinement citoyenne.
Non, parce qu'on ne peut pas me découper en tranches de saucisson, je suis désolée. Moi, je ne suis pas...
Je ne voulais pas, je vous assure.
Chercheuse de telle heure à telle heure et citoyenne de telle... Non, c'est tout mélangé dans moi. Et puis, ben, la politique fait partie aussi de ma vie. J'ai toujours été très intéressée depuis toute petite dans ma Lozère natale par les rapports sociaux de classe. C'est quelque chose qui m'a toujours habitée. Et si je suis tombée amoureuse de Michel, c'est parce que lui, c'était pareil. Il était habité par les rapports de classe. Tout le temps, il était très sensible. Alors lui, il est d'origine très modeste. Moi, je suis d'origine beaucoup plus bourgeoise, mais une petite bourgeoisie de province, disons. Mais voilà, ça nous a beaucoup rapprochés de voir le monde comme ça.
Bon, maintenant, vous allez changer le monde.
Voilà. On va essayer. Bonjour.
Bonjour.
Elle a voté pour Macron. C'est notre voisine.
C'est la voisine qui passe qui a voté pour Macron.
Il a un beau sourire.
Donc, c'était l'argument qu'elle avançait.
Ouais.
On est où là? C'est un peu la rue commerçante du centre-ville de Bourg-la-Reine. Ouais. Et voilà comme Monique qui est en train de préparer pour tracter.
Alors donc tu
prends des tracts.
Tiens, regarde.
Et on va prendre notre plus beau sourire. On va dire bonjour aux gens et on va leur tendre notre tract.
Vous avez même pas regardé. Oh, je suis déçue. Même pas regardé. L'autre, elle a dit non, aucun intérêt. Est-ce que je vous ai donné ma profession?
Non, mais j'en veux surtout pas, madame.
Ah bon?
Eh non.
Et vous l'avez même pas vu ni lu.
Justement, on se prend des bonnes claques hein, en tractant. Des gens qui font un pas de côté pour vous éviter. Ceux qui détournent le regard et qui daignent même pas tourner la tête. On sent des réactions un peu épidermiques parfois. Et parfois, il y a un peu de chaleur.
Monique ?
Oui. Juste, de toute façon, vous avez déjà ma voix. Donc voilà, oh, pas grand-chose d'autre à vous dire. Je me suis abonnée à votre page Facebook. Donc, je suis d'actualité.
Voilà. Ah, c'est super. Merci beaucoup. Oh, mais ça fait chaud au cœur. Hein.
Je travaille à France Inter.
Oui.
Vous vous tractez pour qui, vous?
Bonjour, je suis Freddy. C'est le candidat Les Républicains UDI.
D'accord. C'est lui qui remplace De Vidjian, en fait.
Voilà, c'est ça.
C'est le successeur.
Naturel de Vidjian. Il a été son suppléant, il l'a déjà remplacé à l'Assemblée nationale, donc tout naturellement, il le remplace.
Bon. Et comment se passe cette campagne? Ça se présente bien, vous n'êtes pas inquiète?
Bah, pas trop mal, on est relativement confiants. Bah, la position,
vous soutenez Macron ou vous êtes dans l'opposition ou dans la majorité, les militants LR, UDI?
Enfin, on n'est ni dans la majorité ni dans l'opposition. On attend de voir d'abord ses propositions.
Parce que là, vous voyez, il y a la candidature de Monique Pinson-Charlot qui est en train de tracter dans la même rue.
Oui.
Ça ne vous inquiète pas?
Si vous voulez, il y a 13 candidats sur la circonscription. C'est énorme. C'est moins qu'à Gennevilliers où il y en a 23. Mais bon, pourquoi pas, je veux dire, on peut se retrouver sur un certain nombre de choses. Voilà.
Bon, bah, bonne campagne.
Merci, monsieur.
Est-ce que je peux vous donner ma profession de foi pour les prochaines législatives?
Vous, peut-être, madame?
Monique, pendant qu'on tracte, là,
oui.
C'est intéressant de voir comment les réactions à l'élection de Macron se portent spontanément, ceux qui ont envie d'y croire et puis ceux qui sont déjà désabusés. Et vous, avec votre mari Michel, vous aviez publié juste avant les élections, pendant la campagne, ce petit livre très rentre-dedans, « Les prédateurs au pouvoir, main basse sur notre avenir ». Qu'est-ce qui s'est vérifié de ce constat que vous faites sur notre avenir qui est aux mains de la finance avec cette élection et avec l'élection de Macron?
Ah ben, je dirais que c'est la réalité qui dépasse la fiction. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, auquel nous consacrons un chapitre dans ce petit livre de colère, est vraiment emblématique de cette oligarchie qui s'accapare toutes les richesses et tous les pouvoirs. Parce que comme il n'y a plus avec lui ni droite ni gauche, il n'y a plus être élu ou être technocrate. Désormais, le pouvoir est ouvert à la bureaucratie, à l'expertise venimeuse, aux think tanks, aux lobbyistes de tout poil, pour nourrir l'appétit insatiable des actionnaires des multinationales.
Bah oui, vous avez la
candidate. Bonjour. Bah, enchanté.
Ah bah super.
Enfin,
quelqu'un qui se bat contre les finances.
Les financiers.
Oui, que... Vous, c'est la candidate contre la finance, ça a attiré votre œil.
Oui, tout à fait. Parce que je me suis dit, oui, effectivement, on en a marre quand même de se faire couillonner. Excusez-moi le mot. Hein. Mais ce monsieur Macron, moi, je pense qu'il va donner plus l'avantage aux grands groupes. Les banques aussi auront plus de pouvoir.
Voilà. Exactement. Là, ce qui va arriver, mm-hmm. vous avez raison d'être très inquiet,
oui,
parce que ça va être un tour de vis néolibéral d'une violence extrême, mais invisible.
Oui, donc je vais vraiment lire ça de plus près.
La petite brochure. Voilà.
Au plaisir, madame, hein, et bon courage à vous. Hein. Au revoir. Au revoir, madame.
Bonjour, madame.
Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous donner ma profession?
Vous n'avez même pas lu.
Et voilà. C'est un jour de semaine, dans l'arrêt commerçante classique, face à la gare, ici à Bourg-la-Reine. Monique, accompagnée de la directrice de campagne, a tracté dans la rue principale, juste à côté de la militante de En Marche, qui tracte elle aussi.
Bonjour.
Je travaille à France Inter. Alors j'ai vu la campagne de Monique Pinson-Charlot, j'ai vu celle des de Républicains de M. Siffredi, et vous, vous avez autour du cou...
S'assoir. En marche.
En marche.
Et le sourire.
Et le sourire, c'est vrai. Et le bronzage. Vous allez lire la profession de foi des Pinson-Charlot. Vous allez jeter un coup d'œil quand même.
Ah ben j'ai déjà jeté un coup d'œil. Je suis très curieuse. Et puis c'est important de pouvoir réagir au trac des autres. C'est un bon support. Même de temps en temps, ça me donne des idées pour être meilleure avec En Marche d'ailleurs. Donc oui, bien sûr.
Si vous vouliez me convaincre justement sur le projet.
Oui, effectivement, pour moi, je vois ça plus comme un projet qu'un programme. Les mots-clés, c'est renouvellement, c'est ouverture, c'est citoyenneté. C'est vraiment les trois notions moi, que je mettrai en avant, l'Europe, parce que je suis très européenne dans l'âme. Mais oui, ni gauche ni droite, ça me parle beaucoup. Oui.
Et ceux qui disent c'est le candidat de la finance, c'est les candidats des riches et puissants qui ont marketé un beau produit.
Oui, c'est vrai, on l'a beaucoup entendu, c'est l'argument phare contre Macron.
Est-ce que tous les milliardaires qui sont propriétaires de tous les principaux réseaux de news et de magazines en France l'ont soutenu?
Oui, mais peut-être qu'ils ont aussi, comme moi, accroché avec la philosophie. Au moins leur laisser le bénéfice du doute.
Que le MEDEF est derrière lui.
Ben, tant mieux si on rassemble le MEDEF, si on... tant mieux, j'ai envie de dire. C'est pas, je vois pas pourquoi on en aurait honte. À partir du moment où on respecte notre ligne et nos promesses, il n'y a pas de souci.
Bon, ben, bonne marche alors.
Merci beaucoup.
Nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays.
Voilà, je ne vous sens pas très, très séduite par ce nouveau homme politique, jeune, brillant, qui bouge les lignes, qui change la donne.
C'est vrai que quand je pense à Macron, c'est plus fort que moi, je pense à une savonnette. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un produit qui a été monté de toutes pièces par des communicants, par des gens spécialisés dans la publicité, le marketing, avec la solidarité évidemment de tous les multimilliardaires français propriétaires des grands médias. Puis voilà, ça suffit pour faire monter un peu beaucoup de storytelling avec sa femme, sa professeure de français qui l'épouse. Enfin, tout ça est bien mis en scène, tout ça est bien vendu. Et puis, ce qu'il y a de terrible, c'est que les macronistes, ces gens qui se disent en marche, mais pour moi c'est vraiment la grande marche arrière, c'est le processus de déshumanisation avec le sourire. Mais c'est la pire des violences. C'est vrai qu'on a l'impression d'être au 19e siècle, dans un roman marxiste, avec d'un côté les très riches et de l'autre côté les pauvres ouvriers qui sont que 3% à l'Assemblée nationale. Il y a quand même près de 10 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Au fait que 8 multimilliardaires possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité aujourd'hui sur la planète. Au fait qu'ils marchandisent absolument toute la Terre. Les corps deviennent des marchandises.
C'est pas la peine. Non, j'ai mon opinion. Mais j'ai bien compris. Je la respecte.
Et voilà, comment on se retrouve à parler d'ondes sans États-Unis. Donc cette rue centrale de Bourg-la-Reine, où vous tractez, Monique Pinson-Charlot.
Oui, bah écoutez, je vais continuer. Simplement, ce qu'il y a de drôle, c'est qu'ils ne veulent même pas toucher le papier, quoi. C'est ça qui est curieux. Chacun est dans sa bulle. Ce sont beaucoup des femmes qui viennent faire leur marché. Et donner un tract est une violence.
Ça perturbe, quoi.
Ça perturbe. C'est comme quand il y a un malaise quelque part dans le métro, ou même simplement une agression. J'ai toujours été frappée par le fait que les gens ne bougent pas.
Si, c'est bien comme image, ouais. Bouger mais pas attendre dans l'apathie.
Oui.
Ça résume bien votre campagne.
Oui, toujours...
Intervenir là où on ne vous demande rien.
On ne me demande surtout rien.
Qu'est-ce que vous venez troubler comme voilà. Ça, l'ordre des choses
voilà. C'est dans les bougards. De... Oh, c'est encore la pinceau Charlot.
Voter, hein? Bon. Qu'est-ce que j'ai fait du papier qui me dit d'aller voter? Des bulletins que mon voisin m'a remis hier matin en me disant lisez tout, faites votre choix et ne vous en moquez pas. Votez, hein? Bon.
On est où là?
Alors voilà, là nous arrivons donc à la Lorraine.
Théâtre, concert, conférence, projection, danse.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Oh, ça va bien.
On va faire notre meeting pour les classes.
C'est bon, au moins. Ah, d'accord. Déjà ça.
Ça va?
Non, j'étais à la préfecture, donc bulletin de vote et circulaire ont été validés. Voilà.
C'est parti, là.
C'est parti.
Je suis.
Donc là, le calendrier.
Alors.
Toi, tu es sur le marché demain.
À 10h30.
À 10h, voilà. Rue René-Roquel.
10h ou 10h30,
tu m'as dit. 10h30.
D'accord, 10h30. Ok, et demain soir, ça se passe où alors?
Au centre Kessel.
Ah ben c'est parfait.
C'est 19h.
Parce que moi, par exemple, je suis très libre le jour de l'Ascension. Et puis, il y a notre fils qui veut aussi venir aider s'il y a du porte-à-porte, à mettre des tracts. Puis j'ai des copines qui me disent « Oh là là, je rêve que d'une chose, d'aller tracter avec toi. »
Bon. C'est le dernier truc à la mode, pas de souci. Hein? On prend tout le monde.
C'est vrai qu'on adore faire ça. Donc voilà, donc je dis bien que jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on peut abattre.
Disponible, d'accord.
On peut abattre. Le 8, donc François Ruffin, il veut toujours qu'on vienne.
Ben oui, ben il faut y aller, ben bien sûr.
Il faut y aller, hein.
Bien sûr. Parce que ce qui se crée bien, c'est qu'il nous envoie un petit mot.
Et oui, je lui ai demandé, il ne l'a pas fait.
Non.
Bon, alors donc ça, je vais l'appeler...
Pour mettre dans, ouais, dans un tract futur.
Oui.
Avec Caroline Dehas aussi, ça serait téléphoner bien.
Téléphoner François Ruffin.
Parce que je trouve que...
Oui, ça aurait du sens.
Voilà, ce que vous faites dans ces trois circonscriptions, c'est proche.
Ouais.
Trois intellectuels, les trois, qui se lancent en politique pour porter un message de portée nationale. Et qui arrivent à fédérer derrière eux des gens qui viennent de tous les horizons.
Ah, ça serait bien.
Bah, bonjour. Je te donne de l'argent. Non, enfin, c'est toi qui vas m'en donner.
Oui.
Oui, non, t'inquiète pas. On va faire.
Bonjour.
Je vais parler de fric avec mon mandataire financier.
Pour une fois, je peux voir en première loge une affaire de financement politique. Ça se passe sur un coin de table dans le hall. C'est beaucoup d'argent, une campagne comme ça, localement, on peut dire, ou pas? Une fourchette?
Oui, il y a un plafond qui est, je ne sais plus, 30 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Mais nous, on reste modeste. Ça tourne autour de 6-8 000 euros. Enfin, voilà. Donc ça ne ruine pas les Français.
Bon, bah, je vous laisse signer, hein, Monique.
Voilà le chèque.
Alors, 3 000 euros.
Tu vas mettre sur ton compte.
D'accord.
Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagouses elles changeront de doigts, quand l'homard il changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez même en Rockefeller, je resterai comme un fils d'ouvrier. Un employé, un bas salaire, c'est une chose à pas oublier. Oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, les sofas qui changeront de derrière, qui c'est qui changera de pignon, quand les rôles changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise. Alors la vie, les gentlemen, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
On se prépare, là, Jean-Monique qui s'installe sur la tribune. Alors Michel, je vous retrouve,
ouais.
Une fois que tout le monde est installé, aux premières loges pour le meeting.
Ah ouais, bien sûr, pour soutenir la candidate.
De toute manière, dans un couple, il faut bien dire que quand il y en a un qui est candidat de cette façon, ça concerne l'autre aussi. C'est pas du tout comme le boulot, quand on rentre à la maison, puis ça y est. Là, ça pénètre la vie quotidienne, ça la change.
Et c'est tous les deux qui êtes maintenant embarqués dans cette aventure.
Oui, moi, par d'autres biais. Oui, d'autant plus que je suis d'une nature plutôt discrète et pas susceptible de courir après quelques connaissances
après sociales.
Voilà, enfin, ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, qui m'est difficile en plus, c'est surtout ça. Monique se déroule très bien. En fait. Elle était extrêmement timide lorsqu'on a commencé à travailler ensemble. Elle était extraordinairement timide. Et ma foi, bah, c'est moi. Je l'ai beaucoup aidé pour prendre de l'assurance. Et maintenant, alors, à côté de moi, c'est tout à fait autre chose. J'ai l'air de...
L'élève a dépassé le maître.
Tout à fait. Elle devait être douée. On intervient dans beaucoup d'endroits.
Merci. Voilà,
Monique.
Ça va ?
On continue tout à l'heure.
Ok, à tout à l'heure.
Merci d'être venu, aussi nombreux. Parce que au fond, la pensée critique partagée est déjà une forme de résistance. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai accepté cette proposition qui m'a été faite de porter cette candidature avec Sylvie Boxberger, ma chère suppléante. Alors c'est une candidature des forces de la gauche sociale et écologique, issue du monde associatif, Ligue des droits de l'homme, je ne cite pas tout le monde, Fédération de parents d'élèves, Réseau sans frontières, de syndicalistes, de communistes, d'écologistes. Je me fais peur. Alors donc, si vous êtes d'accord, si vous avez des questions à nous poser, nous on est prêts à vous donner nos réponses. Les micros qui vont passer. Donc.
Bonsoir. Merci, moi je suis habitant de Sceaux. Merci pour votre candidature. J'appréciais vos ouvrages. J'aimerais vous entendre sur l'économie. Alors, on peut critiquer les banquiers. Bon, il a fait 2 ans, Macron, hein, on ne va pas en faire des tonnes et des tonnes non plus, pas trop dans la caricature. Il est représentant de ce que vous dites, mais pourquoi taper dessus tout le temps ? Ce n'est pas parce qu'on a fait Bac plus 10 d'études, comme vous sûrement, qu'on aurait des choses pas intéressantes à dire non plus. Donc, bon, ces caricatures-là, je trouve que ce n'est pas la peine. Merci.
Alors là, je suis absolument désolée. Je suis caricaturale, je resterai caricaturale, je mourrai caricaturale. Pourquoi ? Parce que le monde est caricatural. Je n'y suis pour rien. On est là avec 1% de la population qui s'accapare toutes les richesses et tous les pouvoirs, qui sont en train de détruire la planète et l'humanité, et il faudrait se taire. Je ne me tairai pas. Merci beaucoup. Merci bien. Ah non, mais vous n'allez pas recommencer, on a dit on arrête. On arrête et on part tous ensemble. Ben oui, c'est bien aussi. Oh, Eliane.
Et merci pour le livre. Hein.
Oh, quel bonheur. Oh.
Je suis très frustrée.
Ah bon,
oula. Je vais poser ma question.
Oh non, zut.
Pas un mot.
Oh oui. Merci.
Ben merci.
Pas un mot. Au revoir. Merci.
Pas un mot. Sur le problème constitutionnel. Parce que c'était toute la 5e, elle est venue, il faut la foutre en l'air.
Mais ça, je suis d'accord.
Et alors,
mais je ne l'ai pas dit. Mais c'est bon, vous ne pas parler.
Pourquoi vous êtes venue, pourquoi, madame ?
Ah ben, moi, je suis venue parce que je connais Monique Pinson-Charlot pour ses engagements en tant que sociologue et que je suis ses travaux.
Et vous êtes dans la circonscription, en plus ?
Oui, tout à fait, oui. Et donc, j'étais absolument étonnée qu'on ne puisse pas faire une candidature collective, en fait, parce que ça me semble évident que... Une personnalité telle qu'elle était susceptible d'être rassembleuse. Et que, je pense qu'elle l'a très bien exprimé. Hein. Les 1% savent très bien s'entendre et passer au-delà de leurs différences pour gagner. Et nous, on n'a jamais su le faire. Et donc, si on continue, c'est la catastrophe.
Et vous faites partie de ceux et celles déçus de voir que la gauche part encore une fois en ordre dispersé.
Ah bah totalement. Oui, je suis plus que déçue, je suis en colère. Non seulement triste, mais en colère.
Je suis là, moi, aujourd'hui. Hein. Pour ma part, j'étais plutôt plus insoumise. Enfin, j'ai toujours voté de gauche. Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'on est venu, parce qu'on est un peu perdus. On est curieux d'avoir. Moi, ce que j'adore chez Madame, c'est l'approche sociologique, justement, qui est faite, et la société civile qui est plus représentée. C'est aussi pour ça que je suis là, c'est plutôt sur la révolution citoyenne. L'oligarchie, elle est là, c'est clair. Le pouvoir, il est là, c'est clair. Cette élite politique, elle est là. C'est devenu aujourd'hui une carrière et non plus un constat citoyen. C'est non plus reprendre la parole citoyenne, c'est ce qui est devenu important, je pense, enfin, ce qui me concerne aujourd'hui sur le débat.
Dans cette candidature, je vis avec mes tripes, justement, tout le travail qu'on a fait sur cette classe dominante qui est profondément solidaire, collectiviste, presque communiste, si vous voulez, un communautarisme de naissance.
C'est eux les derniers communistes,
oui. Dont Macron est vraiment un emblème, enfin un symbole parfait. Et puis par ailleurs, ben là, avec les législatives, cette division de la gauche vraiment de contestation sociale, écologique, de transformation, il n'y a plus d'union, c'est chacun pour soi, chacun pour sa place, pour son poste, pour ses voix. Et du coup, je sais pas comment dire, c'est tellement dur qu'il faut être blindé. Alors évidemment, je sais très bien que je sors du royaume feutré de la recherche fondamentale pour entrer dans le champ politique.
Où les coups bas sont permis, voilà. Et sont légion.
Voilà, et puis les enjeux de pouvoir. Et puis au fond, ce qu'on essaye de faire aussi ce soir, c'est de vraiment proposer des lunettes pour voir le monde. Et qu'au fond, au-delà du meeting, c'est qu'après les gens partent en se disant « Ah ben ça y est, j'ai compris quelque chose ». Je me suis senti intelligente ou intelligent, et maintenant, ça y est, ma tête va fonctionner.
J'y vois plus clair.
Voilà.
J'ai faim de sens, de fond. J'ai besoin de lumière, de réponse à mes questions. Mon cerveau en péril réclame en vain sa nourriture. La qualité, la finesse et le style, pas de la pourriture. Donne-moi l'ivresse de pensées claires et limpides, de mots vrais qui vieillissent et ne prennent pas une ride. J'suis bien trop curieux pour me contenter des miettes. Rester condamné à n'évoluer à courant des pâquerettes. Alerte permanente, je veux rester éveillé. Affûter mes vers pour me défendre sans bégayer. Déjouer les pièges et éviter les raccourcis. Vite le temps est mon ennemi si le champ se rétrécit. Donc faut que j'emmagasine, puis que je laisse aller la sans renier mes origines, et bien avant que je me décompose vite. Besoin d'évasion, de source d'inspiration, de toutes ces voix qui ouvrent le chemin de l'émancipation. J'ai faim, une faim crève la dalle. Un appétit féroce qui peu à peu sort de la cale et qui salive. À l'approche de chaque nouveau niveau, je me renforce, m'endurcis. J'ai les crocs, paroles de Morricot. Claque le bec des pédants, des prétentieux. Dans ma bouche, la langue française prend l'accent de la banlieue. Et c'est tant mieux, ça dérange, ça devient explicite. Tout d'un coup, les oreilles sifflent car le contenu est illicite. Oui, le prolo s'exprime et le propos est maîtrisé, incroyable. Viens, tu vas te faire ridiculiser. À me prendre pour un con, je crois que j'ai fini par comprendre. Si le savoir est une arme, maintenant voilà ce que ça engendre. J'irai pécho les munitions dans les livres, au cinéma, sur le net, au théâtre comme au bistrot, pas de chez moi. Et je te pilonnerai d'un ton froid et ferme, conscient de la puissance d'une idée qui arrive à terme. J'ai faim.
J'y vois plus clair.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Bon alors Guive, on y voit plus clair dans le programme de Macron, mais est-ce qu'on y voit vraiment plus clair dans la situation politique de la gauche française?
En tout cas, si on prend la 13e circonscription des Hauts-de-Seine comme modèle, c'est pas vraiment sûr, puisque là, on a entendu 13 listes qui se présentent, dont celle de Monique Pinson-Charlot, face à laquelle s'opposent la France Insoumise, les écologistes, les socialistes et la gauche en général. Donc, on n'est pas sorti des ronces, qu'on prenne qui pourra.
Et tout de suite, direction le marché Brassens, où Antoine Chao est allé balader son micro.
Aujourd'hui, c'est jour de marché, comme tous les samedis et dimanches, du côté de la porte de Vanves à Paris. Non, on ne va pas au marché Opus, on va au marché du livre ancien et d'occasion, fondé en 1987 sous les halles de Vaugirard, le long du parc Georges Brassens, dans le 15e, au niveau du 104 de la rue Brancion. Tout un poème, un lieu à découvrir, hors des sentiers touristiques balisés des bouquinistes du bord de Seine. Là, on est dans le dur, chez les fadas du vieux bouquin. Un marché à pratiquer quand on aime lire et chiner, et un lieu à préserver aussi, quand l'appât du gain pourrait le dénaturer. On part y retrouver des libraires forains, passeurs passionnés de livres improbables.
Vous les vendez combien, les assiettes au beurre ?
Oh, je les vends pas cher du tout, je les vends 5 euros pièce.
5 euros ?
Vous êtes collectionneur de l'assiette
au
beurre ?
Non, c'est parce que je mange dans un restaurant à Albi qui s'appelle l'assiette au beurre, alors je vais l'offrir à la propriétaire, mais je cherche quelque chose qui pourrait être un petit peu rigolo pour eux, quoi.
Il y a ce qu'il faut, hein, là, vu que c'est une revue de caricature, mais politique. Hein. Anarchiste. Oui ? ça date de la grande époque de l'anarchisme en France, c'est-à-dire entre 1895 et 1910.
C'est un peu tristouné, leur truc. Hein.
Ça vous permet de vous rafraîchir la mémoire sur l'histoire de ce pays.
Il n'y en a pas avec des scènes de Toulouse-Lautrec, parce que comme c'est pour Albi, ça...
Il y en a quelques-unes où Toulouse-Lautrec a dessiné, mais il faut les trouver, et c'est les plus rares, parce que... Bah oui. Donc, je m'appelle Charles Guilleux. J'ai commencé ce commerce... on va dire sur le tard, après d'autres activités, l'une en tant que correcteur dans l'édition et l'autre dans la musique, ça peut paraître bizarre, même dans le rock'n'roll. Donc c'est les aléas de la vie qui m'ont amené ici, et à pas seulement donc être un marchand, à être plutôt un passeur, à avoir la chance de manipuler... aussi bien cette revue anarchiste française de caricature que des livres anciens ou là des revues de contre-culture des années 70. C'est-à-dire de continuer à apprendre, à éduquer mon regard et à faire un travail de libraire sur le passé et sur le présent. Un travail de mémoire qui est assez passionnant. Voilà.
Alors, vous avez trouvé votre bonheur avec l'assiette au beurre ou pas?
On cherche pour voir ce qui pourrait être intéressant. Mais pourquoi vous mettez votre micro?
Parce que je fais un reportage sur le marché.
Ah, c'est gentil.
Bah oui.
Avec mon accent, on va tout de suite voir d'où je viens.
L'assiette au beurre au Pays Noir.
Ça, c'est Pays Noir, ça va bien pour Carmo.
Et vous venez souvent? Vous êtes un habitué de ce marché?
Non, ça, je suis venu quelques fois, mais... Bon, allez, je vous en prends deux. Non, vous allez faire un prix pour deux.
Non, ça va être 10.
Alors là, c'est Charles Marco, l'art de tromper, d'intimider et de corrompre les lecteurs. Ah bah.
Oh, vous savez, il y a beaucoup de thèmes qui sont toujours d'actualité. Hein, on s'aperçoit surtout sur cette table qui est... ça date de 1910. Par exemple, je pourrais vous citer... j'ai vendu des pièces de Feydeau. Ça peut paraître démodé, obsolète, mais quand vous voyez dans une pièce de Feydeau un bourgeois parisien très conservateur, on va dire, hurler, parce qu'il est marqué dans le texte qu'il le hurle, il faut réformer, 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 en 1885, mais réformer, on ne sait pas quoi, pourquoi, ça vous rappelle quand même l'actualité présente.
Mobilisons-nous pour défendre le marché. Les Parisiens et amis du marché du livre demandent à la ville de Paris de garantir la continuité du marché du livre ancien et d'occasion dans son emplacement actuel et à des conditions économiques viables, quoi qu'il arrive. Et c'est une pétition de l'Association des amis du marché du livre Georges Brassens, Paris, mai 2017. Voilà, donc on va continuer un peu à faire le tour de ce marché. Alors vous êtes libraire ici, c'est ça? Vous avez ce stand?
Oui.
Vous êtes inquiète, c'est ça, pour l'avenir du marché?
Il est menacé parce que le gestionnaire actuel part à la retraite et que du coup, la convention qui était établie entre la mairie de Paris et l'association de libraires en place depuis 30 ans qui avait créé ce marché, enfin, n'a plus lieu d'être. Et donc, on a peur de se faire manger par une grosse boîte d'événementiel, d'être petit à petit mis dehors, soit par une augmentation des prix de place, soit nous mélanger avec d'autres gens de la brocante ou... Enfin bon, que ce soit plus un marché du livre, uniquement du livre en fait, ce qui est unique et rare. Voilà.
Et vous pratiquez depuis combien de temps alors, comme ça, le livre ancien?
Depuis 20 ans, je déballe sur le marché du livre depuis 20 ans.
Et du coup, c'est votre seule activité?
Oui, on peut en vivre. Encore.
Et je prends, d'accord, La révolte des vignerons du Midi de 1907, un témoignage photographique. Donc c'est 12 euros, hein, c'est ça? Super. Merci Delphine. Carcassonne, le 26 mai 1907, il y a 110 ans. 250 000 manifestants, salut à nos frères de misère. Depuis que le mouvement de protestation en faveur de la viticulture a soulevé les populations portées par la voix de Marcelin Albert. Les manifestations deviennent de plus en plus grandioses. L'appel adressé par le comité d'Argelier est plus qu'entendu. 250 000 personnes ont envahi le chef-lieu du département. Carcassonne est submergée, charrettes, voitures, trains ont déversé dans les rues et les boulevards où flottent des drapeaux tricolores, des foules innombrables. L'adjoint au maire qui jettera son écharpe d'élu à la foule lors de la manifestation de Nîmes, en accord avec le comité d'Argelier, organise le rassemblement. De la paille est distribuée pour ceux qui viennent de loin et qui ont dû coucher la veille dans les refuges improvisés ou à la Belle Étoile. Toute la nuit, la ville est traversée par de subites sonneries de clairons et de sombres roulements de tambours s'exerçant pour le défilé du lendemain.
Alors ici, c'est un stand qui se veut éclectique. On va de l'incunable, c'est-à-dire les livres qui ont été édités avant 1502, les 50 premières années de l'édition, au rock'n'roll. C'est un peu unique, mais c'est ce qu'il faut se faire plaisir en faisant ce métier. Ça permet de rencontrer beaucoup de gens différents. Parce que c'est quand même, il y a des gens, il y a encore des gens qui lisent sur cette planète. Bonjour.
Bonjour, j'ai signé.
Comment ?
J'ai signé.
Bravo.
Donc il a signé la pétition, c'est ça, pour défendre le lieu.
Oui,
le marché.
Donc on a lancé une pétition parce que par rapport à la mairie, il y a un appel d'offres et il y a une large pétition qui circule sur change.org pour appuyer la pérennité de ce lieu qui fait partie maintenant du patrimoine culturel de la ville de Paris et pour que la ville de Paris en soit plus consciente. Donc beaucoup de gens ont signé cette pétition parce que il y a beaucoup d'amoureux de ce marché.
Alors c'est ouvert aux quatre vents quand même en hiver. Il faut être vraiment passionné quoi pour venir chiner ici.
Ouais, mais
et vendre. Ouais.
C'est une halle qui a été construite par un élève de Baltard, l'architecte des halles de Paris, qui dépendait à l'époque des abattoirs de Vaugirard, qui ont disparu et qui ont été remplacés par le square qui est derrière, le parc Georges Brassens. Et c'est l'endroit où on écarissait les chevaux.
À la porte de Vanville, il y a aussi les abattoirs de Vaugirard. L'établissement municipal de Vaugirard est, malgré l'emblème du taureau, spécialisé dans l'abattage des chevaux.
Olivier Coudert, donc je suis en charge du marché du livre Georges Brassens. Ce marché a été créé il y a donc 30 ans.
Il a été créé par vos parents.
Oui, ouais. Il a été créé par mes parents donc en 1987 et qui ont été arrêtés il y a une vingtaine d'années. Hein, oui. Donc je suis ici depuis 11 ans et je termine mon mandat, on va dire en quelque sorte, là, vers la fin de l'année. Donc la ville de Paris actuellement est en train d'étudier donc le type d'appel d'offres qu'il ferait. Il y a des appels à projets, des appels d'offres, des choses plus ou moins lourdes. Mais nous, ce qu'on demande au fond, c'est... Et c'est le vœu de beaucoup, parce qu'on a fait une pétition qui a enregistré près de 3000 signatures. En fait, ce que les gens demandent, c'est qu'au fond, on leur garantisse que les libraires puissent rester et aux conditions actuelles. Et en fait, on veut que le lieu soit comme sanctuarisé et que ce soit vraiment dédié pour longtemps aux livres. Moi, j'ai plus de 40 personnes dont c'est le seul lieu d'exposition, hein. Bon, même si de temps en temps ils peuvent faire un salon ou une brocante. Par exemple, Charles, c'est le cas, hein, je veux dire. C'est leur boutique, en fait. Ils n'ont pas de boutique à l'extérieur. Donc c'est leur gagne-pain, on va dire. Hein.
Un jour, Pierre et son meilleur ami l'oiseau partirent faire une promenade dans la sombre forêt.
Quand vous regardez la pochette, vous voyez Pierre et le loup. Donc Pierre et le loup, c'est quand même un conte pour enfants assez daté. Et en fait, si vous regardez de plus près, c'est Pierre Clémenti, icône du cinéma français et de la contre-culture, mort très jeune de ses abus divers et variés, qui récite le texte et accompagné en fait de toutes les stars du rock anglais des années 70. Je le dis, date de 75 et c'est une curiosité invraisemblable.
Hashtag comme un bruit.
Moi je m'appelle Raoul. Voilà,
libraire aussi.
Ouais, ça fait une vingtaine d'années que je fais ce métier, ouais, un peu plus même.
Libraire forain, c'est ça?
un peu les deux, bon, en général. On fait et de la librairie à Ivry-sur-Seine, librairie généraliste, de bonne aloi, avec un fonds de livres épuisés et d'occasion. Et puis on vient assez régulièrement ici sur Brassens, une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines. Ça nous permet de donner à voir et puis de diffuser des fonds de livres rares ou de livres d'occasion qu'on rachète à des particuliers assez régulièrement, qui sont souvent d'ailleurs des clients de la librairie. Ça nous permet de diffuser un public qui fréquente peu ou pas la librairie généraliste traditionnelle. Le public de Brassens, c'est un public assez bigarré, mais c'est pas nécessairement un public qu'on retrouve en librairie traditionnelle. C'est un public de chineurs qui aiment les quais, qui aiment Brassens, qui aiment les vides-greniers, les brocantes, voilà. On a des constantes, en fait, et de la poésie 20e siècle essentiellement, un fond sciences humaines et politiques. Par exemple, ça c'est un texte de Pierre Courtade. Pierre Courtade, peu de gens savent qui il a été ou ce qu'il a représenté en lettres françaises dans l'immédiate après-guerre, enfin seconde guerre mondiale. Mais c'est surtout un livre, c'est le tirage de tête. C'est un exemplaire numéroté sur un velin, avec une formidable couverture sérigraphiée d'Edouard Pignon. Ici, il y a un public qui s'intéresse au livre aussi au-delà du texte, dans sa dimension d'objet, quoi, de produit, de savoir-faire, de métier, d'excellence, d'ouvrages composés en typo, des reliures originales, enfin voilà. Et tout en restant dans une gamme de prix qui n'est pas celle de la librairie d'anciens, qui a le mérite d'exister, mais qui est une librairie gamme, on est déjà aux frontières de l'antiquariat et d'un mécanisme de marché qui sont des mécanismes un peu spéculatifs ou presque. Là, on est toujours dans des prix accessibles à Brassens, pour l'essentiel.
Et il y a un côté bouquiniste, un peu comme sur les quais de Paris, mais pas folklorisé, quoi, c'est ça ?
Bah, disons que la chance et la disgrâce, d'une certaine manière, la chance, c'est d'être en dehors des circuits touristiques. C'est donc que ça nous permet de maintenir ferme sur le métier, c'est-à-dire qu'ici tu trouveras pas de tour Eiffel miniature ni de carte postale de Notre-Dame, mais dans le même temps la difficulté c'est que comme on est un peu excentré, on se prive d'un public qui pourrait venir plus nombreux à Brassens. Ça fait 30 ans que c'est une véritable institution, y compris à l'échelle des pays limitrophes, il y a peu d'équivalent à ma connaissance. Il y a qu'à Madrid où on trouve encore aujourd'hui une allée des libraires d'occasion comme ça, mais il y a quasiment plus d'équivalent à ma connaissance. Ça a complètement disparu à Bruxelles, ça a disparu en Italie. En Europe centrale, il se maintient des choses un peu dans ce goût-là.
Voilà, je vais à Champ pour l'Espagne.
Une anthologie avec ce qui était la fine fleur des traducteurs de la poésie espagnole. C'était aux éditions Messidor, qui était une maison d'édition qui était assez liée au gérant du PC, quoi, à l'époque du PC, des années 50 et 60, où il était assez hégémonique dans le champ culturel. Et c'est surtout une formule proche du livre-club avec des reliures industrielles. Mais c'est une très très belle anthologie qui court de 1907 à 1965. Et on trouve Emmanuel Robles, Guy Vic, Pierre Diamara, Jacques Gaucheron, Claude Couffon, Hubert Join, qui tous se sont collés à traduire ce qui leur semble être le florilège le plus exemplaire de la poésie espagnole du XXe siècle. Et puis, toujours, de manière constante, toujours un petit peu de vinyle. On est quelques-uns ici à faire un peu de vinyle. C'est à dire, parce qu'il y a un engouement certain pour le vinyle, et beaucoup de jeunes ignorent qu'à Brassens on trouve du vinyle, et du vinyle de très bonne facture à des prix très raisonnables.
Un carré de résistance ici, quoi.
Pour une part, ouais, mais carré de résistance parfois dans une dimension que j'ai tendance à considérer comme infrapolitique, c'est-à-dire dans le rapport aux gens, dans les usages, dans le fait qu'ici, en hiver, t'as samedi, dimanche, centaines de personnes qui viennent et c'est un petit lot comme ça où on parle littérature, on parle bouquin ou les déconnecter, temporalité un peu différente quoi, un moment un peu en l'air, un peu suspendu. Et t'as des rapports avec les usagers de ce lieu, parce que t'as des véritables usagers, t'as des gens qui viennent tous les week-ends, qui repartent parfois avec un petit livre de poche à 2 euros. Pas simplement des riverains, hein, des gens qui viennent parfois d'un peu loin. Et pour qui c'est une sorte d'oasis de bien-être, de. Le mot est un peu galvaudé aujourd'hui, mais de fraternité, quoi, où les rapports sont des rapports de franche camaraderie, quoi. Et puis il y a des bonnes parties de rigolade aussi.
Bonjour. 20.
Alors c'est une petite gravure sur Paris, c'est ça? Ouais. Ça vous intéresse, ça vous plaît?
Un
peu moins.
Vous venez d'où?
United States. America.
Vous venez des États-Unis, d'accord, ben voilà.
Hein. Il y a beaucoup d'Américains qui passent ici.
10 euros avec vous, c'est bon.
Rendu.
Oui, puis on est à 9.
Alors ça c'est un vinyle, c'est du côté de chez Swing, Maurice Vander Trio.
C'est un pianiste français qui vient de mourir.
Et vous êtes collectionneur de vinyle?
Spécialement du jazz plutôt.
Hein. De jazz, ouais.
Et cette époque-là.
Jazz ici.
Oui, j'en ai vu, mais j'en avais, je les avais presque tous.
Regardez ça, c'est Arte, Don Cherry.
Ah oui. Ah oui.
Don Cherry, il a fait un groupe que je conseille toujours, qui a fait deux disques en 15 ans, qui s'appelle The Liberation Music Orchestra, où il a réuni Charlie Haddon, Carla Bley, Gato Barbieri, en reprenant des chansons de la Révolution espagnole et des chansons révolutionnaires sud-américaines, uniquement. Et c'est une merveille.
Donc c'est hors de prix.
50 euros.
Oui, non, non. C'est pas dans mes moyens.
30.
Alors Charles, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui justement? On parle du présent, de ce marché. Il faut le sauver, il faut le préserver.
Oui, c'est un marché auquel on tient énormément. On vient quand même du monde entier pour acheter des livres ici. Et à tel point que dans un dictionnaire qui s'appelle « Le franc-parler des métiers » de Pierre Perret, qui n'est pas vieux, qui date de 2002, eh ben vous trouvez dans la rubrique des libraires bouquinistes, page 510, le terme « ongle noir », au pluriel, « les ongles noirs », un nom d'argot de métier. C'est les libraires d'anciens au marché aux puces de Brancion. Il écrit en dessous « Les ongles noirs ont tous une clientèle de spécialistes. Ils peuvent te demander, nous dit Pierre Perret, les œuvres de Paul-Louis Courier aussi bien qu'un album des Pieds Nickelés. » Voilà ce qui résume exactement la diversité et le caractère unique de cet endroit auquel, au-delà de la survie immédiate d'une centaine de libraires, ce qui n'est pas anodin.
Il faut venir donc ici signer la pétition « Le marché du livre de la rue Brancion, Paris, est menacé. Mobilisons-nous pour le défendre, signer notre pétition. » Il faut venir le signer ici. Hein.
Absolument.
Le plutôt samedi et le dimanche.
Tous les samedis, tous les dimanches, sur n'importe quel stand. Et le titre, c'est plutôt « Est-il menacé ?» hein, parce que nous voulons que ce marché devienne plus visiblement une grande vitrine culturelle pour Paris.
Voilà, alors pour la route, l'écho des savanes, numéro 6, avec Mandrika Bretéché-Gottlieb. Hein.
Là, on est dans les années 70.
Ou Jacques Perdu, les insurrections lyonnaises, 1831-1834. Bon, voilà, il y a de quoi faire. Bon, là, il y a un harakiri aussi.
Avec Serge Gainsbourg. Et bon, peu plus loin, vous allez trouver les œuvres complètes de Charles Fourier, le célèbre utopiste. Vous voyez, l'éventail est aussi large que l'esprit humain.
Et demain dimanche, allez faire un tour au marché Brassens, chiner des livres anciens et signer la pétition. C'était Comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site de France Inter. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux. Que le bruit court, hashtag comme un bruit. Juste après les infos, prenez les routes de la musique avec André Manoukian et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.